3. Le PC sécurité version IH était une petite pièce tapissée d'une dizaine d'écrans sur lesquels défilaient les images en noir et blanc du système de vidéosurveillance. Assis derrière son bureau, le responsable du site ouvrit l'un des tiroirs.
« On les a trouvés coincés sous l'étagère »,
précisa-t-il en posant sur la table ses deux trophées. Le premier était le téléphone portable d'Anna. Je le reconnus sans hésitation grâce au sticker de la Croix-Rouge collé sur la coque. Ayash poussa la déférence jusqu'à me prêter son propre chargeur, mais impossible de le rallumer. L'écran était fracassé. Pas le genre de dommage que l'on encourt en laissant tomber son cellulaire. Quelqu'un avait dû s'acharner à coups de talon pour le pulvériser de cette manière. Le second objet avait plus de valeur. Il s'agissait d'une pochette en lézard brillant, ornée de cristaux de quartz rose. L'un des premiers cadeaux que j'avais offert à Anna et qu'elle portait la veille au soir, lors de notre sortie au restaurant. Je fouillai le sac rapidement. Portefeuille, porte-clés, paquet de Kleenex, stylo, lunettes de soleil. Rien de remarquable.
Voici les vidéos, vous allez voir le carnage.
Ayash avait repris du poil de la bête et ne tenait plus en place sur son siège. Comme s'il jouait dans une série américaine, il venait lui-même de s'introniser grand prêtre des images, jonglant avec les écrans, maîtrisant les ralentis, les avances rapides et les retours en arrière.
« Cesse tes gesticulations et balance ton film !» s'énerva Marc.
Dès la première image, la stupeur nous saisit. Un félin bodybuildé, prêt à bondir. Une silhouette musclée, bardée de vitres teintées, qui se prolongeait par une double calandre chromée. Nous échangeâmes un regard rageur. C'était le 4x4 qui avait failli nous percuter. Sur les premières images de vidéosurveillance, on le voyait forcer la barrière d'entrée de l'entrepôt avant d'emprunter la rampe qui desservait les niveaux supérieurs. On le retrouvait ensuite au dernier étage.
« Stop !» s'exclama Karadek.
Ayash s'exécuta. En observant attentivement l'énorme SUV, je reconnus le modèle. Un X6 BMW, au croisement d'un tout-terrain et d'un coupé. Lorsqu'il avait eu son deuxième enfant, un de mes amis, auteur de Polar, en avait fait l'acquisition et m'en avait vanté les mérites. Au moins 2 tonnes, 5 mètres de long, plus d'1,50 m de hauteur. Le spécimen que je voyais sur l'écran était plus menaçant encore, avec son pare-choc renforcé, ses vitres fumées, ses plaques d'immatriculation masquées. Marc appuya lui-même sur une touche pour remettre l'image en mouvement. Le conducteur du 4x4 savait exactement pourquoi il était là. Sans hésitation, il fila jusqu'à la dernière rangée, fit demi-tour et immobilisa le véhicule sous l'emplacement de la caméra. On distinguait seulement le capot de la voiture et les dizaines de box en enfilade. Puis, on ne vit plus rien.
« Le fils de pute ! Il a déplacé l'appareil !»
siffla Karadek entre ses dents. La poisse ! Le type, mais rien ne dit qu'il ne s'agissait pas d'une femme, ni qu'il n'y ait pas eu plusieurs personnes dans la voiture, avait manifestement tourné la caméra de surveillance en direction du mur. Sur l'écran, il n'y avait plus désormais qu'une neige sale et grisâtre. De rage, Karadek abattit son poing sur la table, mais Ayash, tel un magicien, avait plus d'un tour dans son sac.
« Montre-lui ton téléphone, pape !»
Le Black avait déjà son appareil en main. Un large sourire éclairait son visage.
« Moi, j'ai pu tout filmer. Le vieux pape, il est autrement plus malin que...
« File-moi ça !»
cria Marc en lui arrachant le portable des mains. Il manipula le cellulaire et lança le film. Première déception. L'image était sombre, saturée, granuleuse. Courageux mais pas téméraire, Pape s'était tenu à distance des opérations. On devinait plus qu'on ne voyait précisément la scène. Mais l'essentiel était là. Brutal, violent, affolant. Dans un vacarme d'enfer, le 4x4 pilonnait le box jusqu'à le défoncer. Puis un homme cagoulé jaillissait du véhicule et s'introduisait dans le garage. Lorsqu'il en ressortait, moins d'une minute plus tard, il portait Anna pliée en deux sur son épaule. Preuve que l'homme n'était pas un chevalier blanc venu la délivrer, Anna criait et se débattait. Le type ouvrait le coffre et la projetait sans ménagement à l'intérieur. Après un bref passage dans l'habitacle, il ressortait en tenant les deux bombes prêts et se dépêchait de retourner dans le garage pour y faire son ménage. La vidéo s'arrêtait au moment où la voiture redémarrait en trombe et repartait vers la sortie de l'entrepôt. Espérant y repérer un indice, Marc relança le film dans la foulée en montant le son du téléphone au maximum. Le calvaire recommença. La voiture folle, la destruction du box et Anna prisonnière de cet inconnu. Juste avant qu'il ne la jette dans le coffre, je tendis l'oreille plus attentivement. C'était moi qu'Anna appelait. Elle hurlait mon prénom.
« Raphaël, aide-moi ! Raphaël, aide-moi !»
4. Portière qui claque, marche arrière, passage d'une vitesse. Karadec accéléra brutalement, abandonnant quelques traînées de gomme sur le goudron. Plaqué sur mon siège, par la violence du démarrage, je bouclai ma ceinture en regardant s'éloigner dans le rétroviseur l'image saccadée du cube de béton. J'étais rongé par l'inquiétude pour Anna, fiévreux comme jamais. La voir m'appeler au secours ainsi m'avait secoué. Je pouvais à peine imaginer ce qu'elle devait ressentir. J'espérais de toutes mes forces que dans sa terreur, elle me croyait capable de la retrouver. Alors que Marc fonçait pour rejoindre la nationale, j'essayais de mettre de l'ordre dans mon esprit. Pendant un moment, la stupeur avait pris le pas sur toute réflexion. J'étais complètement paumé. Depuis ce matin, nous avions appris beaucoup de choses, mais je ne parvenais pas à relier entre eux les événements, ni à leur donner le moindre sens. Je me concentrais. De quoi étais-je absolument certain ? De pas grand-chose, même si à première vue, certains faits n'étaient guère contestables. Après notre dispute, Anna avait bien pris son avion, hier soir à l'aéroport de Nice, pour rentrer à Paris. Elle était arrivée à Orly vers 1h du matin. Comme l'attestait la présence de son sac dans son appartement, elle s'était probablement rendue en taxi jusqu'à Montrouge. Et après ? Une conviction plus qu'une certitude. Elle avait contacté quelqu'un pour le prévenir qu'elle m'avait montré la photo des 3 cadavres. Qui et pourquoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Mais à partir de là, tout avait basculé. Anna avait reçu une visite à son appartement. S'en était suivie une conversation qui avait dégénéré en dispute. On l'avait enlevée et séquestrée quelques heures dans le garde-meuble de la banlieue nord. Jusqu'à ce qu'un autre inconnu défonce le box avec son bolide, non pas pour la libérer, mais pour la garder en captivité. Je me frottai les paupières et baissai la fenêtre pour prendre un peu d'air. Je naviguais en eau trouble. Mon scénario n'était pas forcément inexact, mais il manquait trop de pièces au puzzle.
Tu vas devoir prendre rapidement une décision.
La voix de Marc me sortit de mes pensées. Il avait allumé une cigarette et conduisait pied au plancher.
À quoi tu penses ? Veux-tu ou non prévenir la police ? Après ce qu'on vient de voir, c'est difficile de pas le faire, non ?
Il tira une longue bouffée de sa clope en plissant les yeux.
C'est à toi que revient cette décision.
Je te sens réticent.
Pas du tout, mais il faut que tu sois bien conscient d'une chose. La police, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Une fois que tu seras dans l'engrenage, tu pourras plus en sortir. Les flics enquêteront. Ta vie et celle d'Anna seront fouillées, tout sera déballé. Tout sera sur la place publique. Tu contrôleras plus rien. Et tu pourras plus jamais revenir en arrière.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer si on décide d'aller voir les flics ? Marc sortit de sa poche le téléphone de Pape.
Avec cette vidéo, on leur a déjà mâché une partie du travail. À présent qu'on a une preuve concrète qu'Anna est en danger, le procureur pourra pas faire autrement que de considérer qu'il s'agit d'une disparition inquiétante, voire d'un enlèvement.
Qu'est-ce que la police peut faire de plus que nous ? Karadec jeta son mégot par la fenêtre et prit le temps de la réflexion.
En premier lieu, ils essaieront d'exploiter la ligne téléphonique d'Anna pour voir l'historique de ses appels.
Quoi d'autre ?
Ils tenteront de remonter la piste d'Ebony and Ivory, mais ça ne les mènera pas loin. Puis ils sortiront les listings pour voir à qui appartient le 4x4. Les plaques sont masquées, mais comme c'est pas un modèle courant, ils parviendront plutôt facilement
à s'apercevoir que c'est une bagnole volée.
Il hocha la tête. T'as tout compris.
C'est tout ?
Pour l'instant, je vois rien d'autre.
Je respirai un grand coup. Quelque chose me retenait d'aller trouver les flics. Le soin pris par Anna pour camoufler son identité pendant toutes ces années. Qu'une fille de 16 ans ait un tel besoin de se cacher me semblait stupéfiant. Avant de griller sa couverture, il fallait que je sache qui elle était vraiment. Si je décide de continuer l'enquête, je peux compter sur ton aide ?
Ouais, je suis ton homme. Mais tu dois être conscient du danger et bien peser tous les risques.
Que va-t-il se passer avec les flics de Seine-Saint-Denis qu'Ayasha a appelés ? Karadec balaya mes craintes.
Ils étaient pas très pressés d'arriver, ceux-là. Crois-moi, ils feront pas de zèle. Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit que d'un garage fracturé, rien de plus. Sans la vidéo, les deux guignols ne seront pas crédibles. Il n'y a plus d'empreintes sur la scène, et nous avons récupéré les seuls objets qui auraient pu leur permettre de remonter jusqu'à Anna. Son téléphone et sa pochette. À propos, t'es certain qu'il n'y a rien d'exploitable dans ce sac ?
Par acquis de conscience, je vérifiais une nouvelle fois le contenu de l'étui en lézard. Portefeuille, mouchoir en papier, porte-clés, lunettes de soleil, stabilo. Non, je bloquais sur ce dernier objet. Le bâtonnet en plastique, coiffé d'un capuchon que j'avais pris dans un premier temps pour un feutre, était en réalité un test de grossesse. Je regardais dans la fenêtre de résultats pour découvrir deux petites bandes bleues parallèles. L'émotion me saisit à la gorge. Mon corps fut transpercé de 1000 flèches glacées qui me paralysèrent. Autour de moi, la réalité se dilua. Le sang pulsa et bourdonna dans mes oreilles. J'essayais d'avaler ma salive, mais fus incapable de déglutir. Le test était positif. Tu es enceinte. Je fermai les yeux. Comme des éclats d'obus, des centaines d'instantanés explosèrent dans ma tête. Des images de notre dernière soirée, avant qu'elle ne dégénère en dispute. Avec acuité, je revis tes expressions, ton rayonnement, la lumière sur ton visage. J'entendis ton rire et décodai les inflexions de ta voix. Ton regard, tes paroles. Chacun de tes gestes prenait à présent un sens nouveau. Tu avais prévu de me l'annoncer hier soir. J'en étais certain. Avant que je ne gâche tout, tu avais prévu de m'annoncer que tu portais notre bébé. J'ouvris les yeux. Mon enquête venait de changer de nature. Je ne recherchais plus seulement la femme que j'aimais, mais également notre enfant. Le soufflement rauque dans mes oreilles se dissipa. Lorsque je me tournai vers Karadec, il était au téléphone. Sous le coup de l'émotion, je n'avais même pas entendu la sonnerie. Comme le périph' bouchonnait, il avait rejoint les maréchaux au niveau de la porte d'Anières et se faufilait à présent rue de Tocqueville pour éviter les embouteillages du boulevard Malesherbes. Le portable coincé entre l'oreille et l'épaule, il semblait lui aussi bouleversé.
« Bordel de merde ! Vasseur, t'es absolument certain de ce que tu me dis ?»
Je n'entendis pas la réponse de son interlocuteur.
« Ok, » marmonna le flic avant de raccrocher.
Il resta sans voix quelques secondes. Son teint était livide. Son visage s'était décomposé. Jamais je ne l'avais vu comme ça.
« C'était qui ?» demandai-je. « Jean-Christophe Vasseur, le flic de la crime à qui j'ai envoyé la photo des empreintes d'Anna. Alors ?»« Les empreintes ont matché. Anna est bien fichée au FAED. »
La chair de poule couvrit mes avant-bras. Quelle est sa véritable identité ? Le flic s'alluma une autre cigarette.
Anna s'appelle en réalité Claire Carlyle.
Un silence. Ce nom me disait vaguement quelque chose. J'avais déjà dû l'entendre il y a longtemps, mais je ne me souvenais plus des circonstances. Elle est accusée de quoi ? Karadec secoua la tête en exhalant la fumée.
De rien, justement. Claire Carlyle est censée être morte depuis des années.
Il me regarda et lut l'incompréhension sur mon visage.
Claire Carlyle est l'une des victimes de Heinz Kiefer, précisa-t-il.
Mon sang se figea et j'eus l'impression de tomber dans un abîme de terreur.